Résistance, épisode 1. La marche à la guerre 39-45 a été rythmée de façon constante, et son déclenchement est incombé indubitablement à l'Allemagne hitlérienne. La majorité des historiens situent le début de la Seconde Guerre mondiale le 3 septembre 39, lorsqu'après l'invasion de la Pologne par Hitler, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, en vertu d'un traité les liant aux Polonais depuis février 1921, même si les deux alliés de la Triple Entente auraient préféré négocier. Cette annexion avait commencé le 1er septembre 39, suite à une provocation appelée « Incident de Gleiwitz ». Peu avant, Hitler avait annexé l'Autriche et la Bohême, sans que l'Angleterre et la France ne disent quelque chose. Du 6 au 13 septembre, les troupes franco-britanniques ne prennent aucune initiative militaire, nulle offensive. C'est la drôle de guerre. Grâce à un pacte avec l'Italie fasciste depuis 1936, et au pacte germano-soviétique, l'Allemagne sécurise ses flancs sud et est pour se préparer à affronter les troupes ennemies sur le flanc ouest. En effet, en mai-juin 40, l'armée allemande mène à bien l'invasion foudroyante des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. On parle alors de Blitzkrieg. Les Français pensent alors que l'Allemagne recommence l'attaque de 14-18. Cependant, l'Allemagne les prend à revers en traversant le massif des Ardennes, pourtant jugé impénétrable par les généraux français, et donc mal défendu. L'armée franco-britannique est alors encerclée. Le haut commandement allemand, s'attendant à une contre-attaque française, vit alors des journées d'angoisse, pensant tomber dans un piège. Cependant, cette contre-offensive est reportée de 3 jours. Et le 31 mai, les Allemands réduisent la poche de Lille. La seule grosse alerte vient de la 4ème DCR, commandée par le colonel de Gaulle qui s'enfonce quelques jours dans le flanc de la progression allemande, mais le succès n'est pas exploité, faute de soutien logistique et de renfort. Le 10 juin 40, l'Italie déclare alors la guerre à la France et à l'Angleterre. La France est alors encerclée par deux ennemis plus forts militairement. De nombreuses personnes meurent, et deux hommes sont pris dans cette tourmente. Antoine et Pierre Ledoux sont alors sur le front belge.
Allez, accroche-toi, Pierre, allez.
Je ne tiendrai pas, Antoine.
Allez, l'infirmerie n'est plus très loin. La bande soignera.
Laisse, Antoine. Je n'en ai plus pour longtemps, de toute façon.
Ne dis pas de bêtises.
Antoine, les Allemands arrivent. Tu ne pourras pas me porter jusque-là. Laisse-moi ici.
Je refuse.
Je suis ta porte de sortie. Soit on y va à deux, et on meurt tous les deux. Soit tu te barres tout de suite, et tu vis. Un ou deux peut survivre. Autant essayer.
Non.
Allez, cours.
Il doit y avoir un moyen de faire autrement.
Non, et tu le sais très bien. Va maintenant, je vais les retenir un moment. Allez, va. Ils arrivent.
Adieu, mon frère.
Bien. Et maintenant, à nous deux, sale boche.
Le 16 juin 40, le président du conseil, Paul Reynaud, choisit de démissionner, voulant continuer la lutte. Le président de la République, Albert Lebrun, nomme alors Philippe Pétain nouveau président du conseil. Le 17 juin, Pétain demande l'armistice et en accepte les conditions le 22. Le 24, l'Italie accepte aussi l'armistice et le 25, les combats cessent. À la surprise générale, l'armée française, réputée depuis 1918 la meilleure du monde, s'est effondrée en à peine quelques semaines. Antoine Ledoux cessa donc les combats à son plus grand regret, car une haine des Allemands s'est emparée de lui face à la mort de son frère. Lorsque le général de Gaulle, le 18 juin 40, appelle les Français à poursuivre les combats en venant le rejoindre en Angleterre, il y voit un moyen de continuer la lutte. Le 20 juin, il rejoint donc l'Angleterre, alors qu'au même moment, en France, une collaboration intense se met en place entre le gouvernement de Vichy et l'Allemagne nazie. Sa haine s'intensifia envers les Allemands, et même vers Pétain qu'il considérait pourtant comme un héros de 14-18, selon son grand-père. Il s'engagea alors dans la résistance extérieure et devient alors membre de la SOE. Il commença à réaliser des missions en France, sabotage, renseignement, sauvetage, mais aussi attentats contre Allemands et pétainistes. Sa vie se vit irrémédiablement transformée lorsqu'il arriva en Angleterre le 20 juin et lorsqu'il s'engagea le lendemain. La France libre devient alors pour lui un nouveau foyer, et les membres de cette France libre du général de Gaulle lui proposèrent rapidement des missions devant son ardeur au combat.
Monsieur Verdet, vous m'avez appelé ?
C'est exact, Antoine. J'ai une mission à vous confier.
Et où ça ?
En France.
Ah. Et en quoi consiste cette mission ?
Un de nos agents sur place a été capturé. Seulement, on ne sait pas comment cela est possible. Ses faux papiers étaient d'une qualité exceptionnelle, et son déguisement ne comportait aucune faille. Nous supposions qu'il était trahi.
Il n'avait pas cette fiole de cyanure ?
Non, normalement, il n'avait pas dû en avoir besoin. Il ne devait que récupérer une information sur les déplacements de troupes allemandes, et revenir aussitôt.
Et comment avez-vous su qu'il a été capturé ?
Son contact ne l'a pas trouvé au point de rencontre pour le départ.
Depuis combien de temps a-t-il disparu ?
48 heures.
C'est beaucoup quand même. Hein.
Ne vous inquiétez pas, il a reçu une formation particulièrement efficace, il ne parlera pas. Mais les Allemands ont des méthodes très efficaces et violentes. À mon avis, d'ici 72 heures, il parlera quand même. Et ça, il ne faut surtout pas.
Et le but de ma mission ?
Je pense qu'il y a deux solutions. Choisissez celle qui marchera le mieux sur place.
Bien. Quand est-ce que je pars ?
Immédiatement. Vos bagages ont été faits.
Très bien, j'y vais.
Votre contact se nomme Maria Lopez. Pour le bien de cette mission, vous serez accompagné de Bruno Sana. Il est déjà sur place.
Pourquoi suis-je accompagné ?
Vous le savez mieux que moi.
C'est-à-dire ?
Je connais, je sens votre haine de l'allemand. J'ai su pour votre ferme au combat, tué par des Allemands qui vous poursuivaient. Je ne veux perdre ni ces informations, ni mes hommes.
Je n'ai jamais créé de problème, monsieur Verdet, et vous le saviez aussi bien que moi.
C'est vrai, mais un homme qui se contient pendant autant de temps doit bien un jour se relâcher. Et j'aimerais éviter tout problème.
Puisque c'est comme ça...
Bonne chance, monsieur Ledoux. Antoine Ledoux embarqua donc peu après en direction de la France, pays qu'il n'avait pas vu depuis déjà 6 mois.